RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Si vous voulez prendre la parole avec les GG, avec les grandes gueules, c'est le 32-16 qui est à votre disposition. Le 32-16 avec l'avocate Sandrine Pégan, Bruno Poncet, le cheminot, Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise. C'est la deuxième heure des GG qui démarre. Et si vous avez raté la première, vous avez les podcasts à votre disposition via l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Et puis vous allez sur l'onglet des GG. La deuxième heure des grandes gueules avec le MEDEF qui propose l'entrée d'André Citroën au Panthéon. Alors, c'est parti de la famille, hein, déjà, des petits-fils du fondateur de la marque Citroën. Il dit, quand même, mon grand-père, il a ancré la voiture dans le cœur des Français, dans la société française. Il mérite l'entrée au Panthéon. Alors, faire entrer un chef d'entreprise au Panthéon, au milieu des grands hommes, des philosophes, des écrivains, est-ce que c'est une bonne idée, et des scientifiques? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit au patron hier. Il les a pointés du doigt en disant, la récession, c'est vous qui la provoquerez si vous n'augmentez pas les salaires. Est-ce que les patrons peuvent augmenter les salaires aujourd'hui? Mais revenons justement sur ce qui s'est passé hier, Porte d'Auteuil, à Roland-Garros, où les patrons, le patronat, recevaient les candidats à l'élection présidentielle. En tout cas, on peut leur dire merci. Merci d'avoir organisé hier le premier grand rendez-vous de cette campagne électorale. Ils y étaient 7 candidats à venir répondre aux questions sur leur programme économique.
Oui, malheureusement, c'est un débat qui a été privatisé en partie par une chaîne d'information et ça pose problème d'ailleurs parce que le droit à l'information, c'est un débat important parce que c'était le premier des candidats et malheureusement, il y a eu un mauvais deal, à mon avis, qui empêchait plus de téléspectateurs de voir ce débat. Je referme la parenthèse, il va falloir quand même que pendant cette campagne présidentielle, tout le monde puisse voir les débats. Oui. Et parce que c'est important, c'est comme le rendez-vous le plus important de l'année. En attendant, il y avait donc 7 candidats déclarés. Alors, ils y sont pas tous, parce qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Je vois une trentaine de candidats.
Ouais, 34, je crois, maintenant.
Là, donc, ça veut dire quand même que c'est, a priori, ceux-là qui feront le match. Alors, qui a gagné ce match, justement, entre Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier, Gabriel Attal. Toi, Emmanuel Devilliers, oui. Je sais que tu as regardé attentivement. Oui. Qui était le meilleur?
Oui. Alors, moi, je voudrais proposer par ordre alphabétique un petit jugement vraiment très très bref. On a d'abord senti que tout était calculé, ça en devient un peu ridicule. C'était un jeu de théâtre. Moi, j'ai pas du tout apprécié le côté copain comme cochon avant le débat où on a vu tout le monde s'embrasser. C'était un peu troublant. On a eu sentiment globalement de beaux parleurs, un peu apprentis sorciers, prêts à tout pour être élus et découvrir le monde en jet présidentiel. Enfin, si on est dans un côté populaire d'appréciation, c'était assez surprenant. Alors, par ordre alphabétique, Gabriel Attal. Moi, je l'ai trouvé éternel étudiant assez brouillon. Raphaël Glucksmann, il a enfilé les perles. Pour moi, c'est un grand mytho. Marine Le Pen, très bon look, excellent coiffeur. Du blabla, mais surtout des généralités. Jean-Luc Mélenchon, prétentieux et autoritaire. C'était un mélange vieilli de Boris Eltsine et de Brejnev.
Ah.
Édouard Philippe, plutôt bon, une certaine stature, mais je ne sais pas pourquoi il a des bracelets comme Johnny Hallyday. Bruno Retailleau, connaisseur des sujets précis, 300 000 fonctionnaires en moins, voilà, était une économie qui était enfin qualifiée dans les faits. Une divergence quand même sur Notre-Dame-des-Landes, où j'ai, avec mes camarades de la ZAD,
milité contre durs.
L'aéroport. Et puis enfin Marine Tondelier, on se demande pourquoi elle était là.
Ah oui.
Elle ne représente plus rien, elle n'a pas de mandat significatif électoralement. Et même Yannick Jadot s'est déclaré soutien de Glucksmann il y a 2 jours au pied d'une éolienne. Bref, vu la gravité de la situation et l'absence de toute marge de manœuvre financière, on a eu le sentiment, malheureusement, de politique verbeux et largement impuissant.
Bruno et Sandrine.
Moi je suis
Bruno.
Un peu surpris, c'est que en fait si tu fais Retailleau, Édouard Philippe... Attal et Glucksmann, c'est la même politique. Pourquoi ils n'ont pas invité Lisnard? Moi, je suis pas fan de Lisnard, mais au moins le mec, c'est lui qui te met un truc libéral sur la table. Là, il l'invite pas, donc je comprends pas. Après, moi, je vais te dire, enfin, je vois pourquoi ils ont invité ces gens-là. Tondelier, c'est important, certainement, à tout casser. Gusman, on sait même pas s'il va finir le mois de septembre. En fait, je comprends pas, tu sais, d'avoir sorti ces gens-là. Il y a Cazeneuve. Est-ce que Cazeneuve n'est pas plus une meilleure stature que Gusman? Hollande se cache dans un coin.
Pour Hollande n'est pas
bientôt.
Encore candidat.
Oui, mais Hollande, il va sortir bientôt.
Si je comprends bien le critère, c'est les candidats quand même déclarés.
Bah, Lisnard, il est déclaré avant tout le monde.
Ouais, il manquait peut-être Lisnard. Mais sinon,
Allez, il avait participé à des tables rondes. Cazeneuve, il est pas.
Ouais, moi, je capte. Enfin, bon, après, voilà. Ouais, moi, ce que j'en ai vu.
Un débat à 25, c'est compliqué.
Moi, ce que j'en ai vu, en fait, je pense que Retailleau va falloir qu'il sorte du jeu rapidement parce qu'en fait, il est inaudible avec les deux autres à côté de lui parce qu'en fait, les trois, c'est la même chose.
Les
avec
quoi, les trois, lesquels?
Avec les trois du centre, là. Ouais. Retailleau,
Retailleau, il n'est pas au centre. Hein,
ah, bah, excuse-moi, mais mine de rien, il a fait partie du gouvernement de centre, il est dedans.
Oui, non, mais lui-même n'est pas centriste.
Oui, bah, son domaine, il n'est rien du tout, c'est qu'en fait, là, il n'existe pas, il était transparent. Après, moi, ça reste un problème, c'est qu'en fait, moi, je vais juste parler de la forme, parce que le fond, en fait, ils n'ont rien à dire. Les deux seuls qui ont un programme, c'est Le Pen et puis Mélenchon, les autres, ils nous sortiront la même soupe. Moi, ce que je trouve toujours assez bon, mais en fait, parce qu'il est formé pour ça, c'est Attal. Attal, c'est un enfant de la communication, faut être sérieux. Mmh. En fait, quand il arrive là-dedans, on l'a vu ici, moi, je l'ai en face de moi, tu sens que le mec, il est à l'aise, tu sens que c'est son truc. Ouais. Voilà. Donc, en fait, dans un débat, il sera toujours à l'aise. T'en as d'autres, ils sont pas à leur place, ils aiment pas ça. Et Gusman, ça va être compliqué pour lui, hein. Si ça dure comme ça jusqu'au mois de mai, je pense que ça va être long pour lui, hein. Et puis, bah, Mélenchon, il a fait du Mélenchon. Et Mélenchon, en fait, lui, il a un programme qui est sur la table depuis quasiment 10 piges. Et donc, quand il arrive là-dedans, il arrive au milieu. Tu sais, Mélenchon, non, c'est pas un agneau que tu fais rentrer dans des tigres. Hein. C'est plutôt le tigre qui rentre en face des agneaux. Parce qu'en fait, ils ont beau à l'avoir sifflé. En fait, Mélenchon, il a mis ce qu'il avait à dire sur la table et il a été carré. Hein. Là-dessus, en fait, voilà. Et Le Pen, elle a rien à dire. Parce que Le Pen, elle est déjà, pour tout le monde, elle est déjà au premier tour, au second tour. Donc, Le Pen, elle arrive, elle dit rien. Elle a juste dit que la retraite, elle, c'est 62 ans. Peut-être 60 ans après. Mais elle, en fait, Le Pen, elle dit rien. Elle a pas besoin de parler, en fait. Donc, c'est ça un peu qui va être vicié pendant
de risque à prendre, en fait.
Ils vont s'entretuer tous, en fait.
Sandrine ?
Moi, je trouve que c'est quand même Attal qui a gagné la salle. Mais celui qui aurait, pour moi, remporté déjà le premier match de la présidentielle, je dirais plutôt Édouard Philippe. Parce que tu l'as très bien dit, Bruno, Attal, on l'a reçu ici, il est dans l'énergie, il est dans la communication, il est brillant, c'est vrai, lui, il sait parler, et là, il peut faire...
Il a le sens de la forme.
C'est son métier, ça sent que son
métier.
Mais
là, pour le coup, j'ai été sensible au discours d'Edouard Philippe, parce que c'est lui qui est arrivé avec un discours qui était plus structuré, tu vois, au niveau de la crédibilité économique, il était là. C'est lui qui propose de réduire les dépenses publiques, et là, moi, en tout cas, il a fait des propositions. Maintenant, après, bon, attention, hein, c'est pas les patrons qui font la présidentielle. Et maintenant, il va falloir sortir un peu de Roland-Garros et de convaincre les Français. Et
tu parles d'Edouard Philippe. Moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est qu'on lui a plusieurs fois demandé à propos de la retraite, quel âge de départ vous fixez, oui, parce qu'il dit ça sera au-delà de 64 ans. Il n'en a pas donné un. Ouais. Alors qu'avant, il parlait de 67 ans. Donc, on voit que là, il joue sur l'ambiguïté parce qu'il sait que c'est un sujet un peu touchy qu'en France, alors qu'ailleurs, ça a été réglé partout en Europe. Il n'y a que chez nous, ça provoque des crises et des manifestations. Mais là, donc là,
oui,
je me dis finalement, là, ça manque un peu de courage.
La difficulté, c'est qu'il faut sauver le navire en péril en annonçant des bonnes nouvelles. C'est un peu comme si sur le Titanic, on avait dit, vous allez débarquer, il fait froid, on n'a pas de couverture, mais vous inquiétez pas, on arrive aux Bahamas.
Non, mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'au MEDEF, là, dans la salle du MEDEF, t'as pas que des gens du CAC 40, t'as des entrepreneurs. Moi, j'ai vu ce matin une entrepreneuse de 20 salariés. En face, t'as quand même des gens. Moi, faut se dire les choses, hein. T'as des entrepreneurs dans la salle qui étaient en face de personnes, dont trois, hein, qui étaient au gouvernement, dans les gouvernements Macron, qui les ont massacrés pendant 10 piges. Donc je suis pas sûr que moi les discours de Philippe Attal et Retailleau passent très crème avec les gens qui sont fait surtaxer pendant 10 ans.
Est-ce que vous, quand même, vous avez pas noté que pour Bruno Retailleau c'est quand même compliqué? C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup focalisé, je trouve, dans ce débat sur le duel Attal-Philippe.
Ah oui, forcément, complètement. Ah oui, ouais, d'ailleurs, t'as bien vu les saillies.
On avait quand même une curiosité sur Mélenchon et Le Pen par rapport à ce dialogue avec les patrons, parce que on sait que les patrons s'interrogent, voire ont un peu peur de l'arrivée au pouvoir de soit de Mélenchon, soit de Le Pen. Et Bruno Retailleau, qui pourtant est le plus proche de ce que pense, à mon avis, le patronat, notamment sur la réduction de la dépense publique, on avait l'impression qu'il était un peu à l'écart, en fait, qu'on faisait pas attention à lui. Et ça démontre que la campagne de Bruno Retailleau a vraiment beaucoup de mal à décoller, à exister, même s'il fait des propositions, même s'il est sérieux, même s'il est dans son couloir. C'est compliqué pour lui, hein. Ça s'est vu hier.
Le débat, en tout cas, a été décevant. Parce qu'on s'attendait, outre une confrontation, mais qui n'était pas trop dans l'organisation prévue,
on s'attendait à un choc, quoi, à des coups de poing, des propositions, des trucs.
Putain,
mais moi je serais candidat dans ce truc-là, j'aurais pas fait des propos mondains comme ils ont fait. J'aurais dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, toi ta gueule, tu nous as coulé.
Oui, ça va pas. Mais attends, alors donc tu veux faire comme Mélenchon avec la brutalité dans les dedans.
Non, genre, mais c'est un moment de vérité très très concis dans ce
temps. Il fallait frapper fort.
Mais c'est
trop simple. Moi j'ai trouvé que Retailleau,
quant à Monsieur Mélenchon, indifféremment de sa bouteille, etc., de sa faconde, de son culot d'arriver là-dedans alors qu'il veut bloquer les héritages au-dessus de 12 millions. Enfin, c'est de la provocation. Ouais. Il est quand même vieilli.
Non, mais il a raison. Moi, je suis assez d'accord. Un bon débat, c'est quand il y a des moments de vérité. Quand t'es capable, le lendemain, de dire, voilà, là, il s'est passé quelque chose, etc.
Mais Retailleau, d'ailleurs, il a été. Moi, j'ai trouvé, il a quand même lancé pas mal de
qu'est-ce qu'on retient des débats présidentiels? C'est des moments très forts entre Giscard et Mitterrand. Enfin, il y a des moments de vérité. Hier, il n'y a pas eu de moment de vérité. De toute façon, chacun était dans son couloir. Il y a eu des échanges plaisants, amusants entre Mélenchon et Philippe. Mais Emmanuel, il a raison.
J'ai dirigé des boîtes importantes pendant 40 ans. J'ai jamais été au MEDEF. Le MEDEF, c'est le Rotary de l'entreprise.
Non, mais par contre, Olivier, moi, je comprends pas.
C'est pour ça que les patrons font pas la présidentielle.
Qui les voit passer à longueur de journée, tu sais très bien que le débat de maintenant, tout le monde s'en tape. En fait, les Français ont mémoire de pas changer la politique. Les débats seront au mois de mars ou au mois d'avril.
Non,
il pourra se passer n'importe quoi.
C'est déjà un premier test.
Mais non, mais les débats, les gens, ils en ont rien à foutre à ce moment-là.
C'est pas pour les gens du MEDEF. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que je suis désolé, il y a deux personnes qui doivent se départager, c'est Édouard Philippe et Gabriel Attal. Ils ont intérêt à profiter de ce genre de débat pour justement marquer des points. Et je suis pas sûr que, après le débat, entre Attal et Philippe, ça soit plus clair. Raphaël Glucksmann, il rentre tout juste en campagne, il a une primaire à gagner. Faut qu'il y aille, quoi. Bien sûr. Je te parle pas de Mélenchon et Le Pen, elle est pour l'instant, effectivement, d'ailleurs, elle est en retrait. Elle a eu raison.
Dans une situation comme ça, le pire risque, c'est de ne pas en prendre. Personne n'a cogné.
D'ailleurs, c'est incroyable.
Mais on s'en fout de la forme. On s'en moque de la forme, mais ils sont là aussi pour essayer de montrer un peu.
Pas que de la forme. Des moments de vérité, c'est pas que de la forme. Des moments de vérité, c'est de dire des choses puissantes. Il y a eu des choses puissantes de dites hier, pardon.
Rien.
Mais des choses puissantes à partir du moment où tu parles de l'immigration, tu parles de l'économie, etc. Donc tu parles du fond. Ok, la forme peut-être.
Les propositions, on a entendu
aussi dans la forme.
On a entendu des trucs. Et c'est vrai qu'Attal a été assez bon parce que Attal essayait de mettre de l'énergie et distinguer. Mais c'est
il a juste gagné sur ce point.
Quand on est dans un débat comme ça, chaque candidat devait être seul contre tous.
Parce que c'est trop tôt.
Mais oui,
c'est
pas trop tôt.
Mais si, c'est trop tôt.
Ils ont besoin de se départager là.
Non, je pense pas. C'est à deux temps. Là, d'abord, t'es le 28 août. Et sur les chaînes info, une chaîne info, puisqu'elle nous a ensuite enlevé le droit de continuer de diffuser. Les gens, ils sont encore en vacances. Ils ont d'autres.
Ils sont encore en vacances.
Attends. Et tu es devant le MEDEF. C'est trop tôt. Là, en plus, tu as le budget qui va arriver. Donc tu risques d'avoir aussi une crise politique. Donc t'as deux temps. T'as le temps d'entrer en campagne. Ensuite t'as le temps de la vie politique là qui va reprendre le dessus avec la rentrée parlementaire. Et c'est à ce moment-là, une fois que on aura passé ce temps aussi de la crise budgétaire ou autre, que tu pourras te positionner.
Emmanuel Bompard l'avait très bien expliqué. Une campagne présidentielle. Il y a plusieurs moments forts. La rentrée est un moment fort et on est dans la rentrée.
Mais
ils ne seront pas tous.
Mais il va y en avoir des débats. Mais là, c'est trop tôt, le 28 ou 27 août, devant le MEDEF. Sur une chaîne info, c'est trop tôt.
Les candidats, en dehors des deux, trois grands leaders hier, ils étaient tous en situation de survie. C'était pas trop tôt.
Mais non, mais Retailleau, il est quand même sorti de sa ligne.
Derrière, regarde, tu as la primaire socialiste qui va arriver aussi.
Justement,
ils sont encore en train de s'observer. Attend déjà qu'il y ait la rentrée parlementaire, attend qu'il y ait les débats à l'Assemblée nationale. Et là, à ce moment-là, ils pourront commencer à y aller.
Mais non, mais c'est pas l'Assemblée, ils sont pas députés.
Mais ils pourront commencer à y aller pour la proposition d'après, pour la suite. Là, c'est trop tôt, le 27 août. Tu vas pas dévoiler tes cartouches maintenant, au 27 août.
Ils plantent un peu le décor avec le projet.
Donc, il y a certains qu'on ne verra plus dans quelques mois parce qu'ils n'auront pas
de conception de la
primaire.
Non, mais pas du tout.
Et surtout,
tu les verras plus parce qu'ils n'auront pas été bons, mais ça n'aura pas dépendu de ce qui s'est passé dans le MEDEF.
Mais quand on a un bon mémoire, les campagnes présidentielle, on sait très bien que ça commence déjà à se décanter à la rentrée. Emmanuel Macron.
Mais oui, justement, tu le dis toi-même.
Macron en 2016, je peux te dire que l'été 2016 et rentrée 2016.
Macron, il a été élu parce que Fillon s'est fait tomber dessus.
C'est très long d'imprimer. Il faut commencer tout de suite.
On a Nicolas qui est avec nous. Nicolas, bonjour.
Absolument.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas du Rhône, dites-moi.
Moi, je trouve que c'est globalement tout un peu des charlots, hein, parce que ils sont venus discuter d'économie et demander aux Français leurs préoccupations au prix actuel du carburant, pour les TPE, au coût actuel de la main-d'œuvre. J'en ai pas entendu parler beaucoup d'économie, de comment on dépense, comment on relance le pays. J'entends parler d'augmenter les salaires, mais on fait comment dans les TPE?
On va en parler dans un instant, ouais.
Je veux dire, ils sont tous là, mais c'était ridicule.
Donc,
il y en a un qui est connecté avec la vie réelle des Français. J'étais en Italie cet été et je suis passé par Saint-Marin. 1,57€ le litre de super.
Bah, c'est les taxes. Ouais. Ouais.
C'est que les taxes.
Bien sûr.
Mais pour baisser les taxes en France, il va falloir baisser les dépenses. Et il n'y a personne qui parle.
Mais parce que. Parce que je vais vous dire, Nicolas, aucun n'a dirigé une entreprise, aucun n'a travaillé vraiment dans une entreprise. Alors, ils ont peut-être fait des passages pour certains. Certains sont des professionnels politiques depuis toujours. Je pense à Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Donc c'est compliqué. Quand ils parlent du monde du travail, on a quand même un peu l'impression que c'est des fiches en fait. C'est des fiches et c'est ce qu'on leur raconte du monde du travail. Mais c'est pas ce qu'ils eux-mêmes en tant que individus ils ont vécu parce qu'ils n'ont pas d'expérience en la matière. Pardon, mais Raphaël Glucksmann n'a jamais travaillé dans une boîte. Marine Tondelier.
Nicolas, il a eu un spectacle de, je reprends votre expression, hein, ce que vous avez dit, Nicolas, vous aviez l'impression d'avoir des charlots hier devant vous. On va aller à Reims écouter Guillaume qui lui veut en parler. Il est président du centre de santé. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour.
Bienvenue Guillaume de la Marne. Et vous êtes aussi sévère que Nicolas à l'instant?
Alors moi, j'aurais une approche un peu différente, c'est-à-dire j'ai plus apprécié l'aspect technique hier finalement, parce qu'ils ont, on savait tous ce qu'ils allaient dire, on savait ce qu'ils n'allaient pas dire non plus parce qu'ils ne sont pas prêts, et donc quelque part moi c'est plutôt technique. Et quand je regarde un peu bien au-delà de la salle et quand je vois mes patients et des patients ce matin ou mes collaborateurs ce matin, celui qui a impacté le plus parce qu'il semble plus prêt, moi c'est pas ma chapelle on va dire, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. C'était le seul qui a été assez structuré, qui était assez puissant et qui finalement était en terrain absolument pas conquis et qui finalement a marqué. Alors Bruno Retailleau, oui effectivement, faut qu'il arrête parce que malheureusement peu de gens et même hier ça s'est vu, il ne lui accordait aucune importance, c'était tragique. Et si vous voulez le match du centre, on sait très bien que Philippe est sur un fil parce que il faut pas être trop brutal avec Gabriel Attal, donc j'ai du mal à percevoir s'il veut vraiment gagner ou faire perdre. Mais moi malheureusement, je trouve que hier le candidat qui a le plus impacté, au-delà de la salle, on savait que la salle lui serait jamais acquise. Il déroulait son truc, il savait qu'il aurait des gens face à lui et qu'il serait absolument pas d'accord. Mais il a posé ça comme ça.
Guillaume,
c'est presque pas mon avis. Hein. C'est ce que je ressens ce matin.
Mais Guillaume,
de ce qui ressort de tout.
Tout le monde sait que Jean-Luc Mélenchon est l'un des meilleurs en campagne. C'est l'un des meilleurs à l'oral. En plus, là, il a des propositions. Il le dit. Souvenez-vous, ils l'ont dit, hein, les Insoumis. Il dit, on a un candidat, on a un programme, c'est carré. Justement, hier, il a posé les bases. Dans tous les cas, sur le pouvoir d'achat, il a dit, c'est au patron d'augmenter les salaires. Sinon, vous rirez jaune et c'est vous qui ferez entrer le pays dans la récession. Alors, justement, Guillaume, on va en discuter maintenant. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas et Guillaume. Est-ce que les patrons peuvent augmenter les salaires? Oui ou non? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules. Il est 10h là.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, avec vous bien sûr au 32-16, notamment pour parler des salaires et de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier au MEDEF.
Les salaires, très très bien, il faut les augmenter. Il faut augmenter le SMIC. Il faut augmenter le SMIC. Si vous n'augmentez pas les salaires, vous ne rigolerez pas longtemps parce que vous aurez la récession. Alors vous rirez jaune si vous ne partagez pas davantage.
Pas
C'est Jacques Dutronc.
Mon Dieu, vous allez
Jacques
le chercher
Dutronc,
loin.
L'augmente, ben, l'augmentation, c'est pas un de ses morceaux les plus connus, mais.
Ah oui, non, je le connaissais pas
c'est,
celui-ci.
C'est l'augmentation signée Dutronc et écrit par Lanzmann. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Est-ce que Mélenchon a raison? Sinon, ça plongerait le pays dans la récession.
Alors, augmenter les salaires, déjà, c'est pas un homme politique qui peut le décréter. S'il est président de la République, Jean-Luc Mélenchon pourra augmenter le salaire des fonctionnaires, mais il pourra pas faire grand-chose. C'est les chefs d'entreprise qui le décident, et en général, c'est en fonction de leurs moyens, de ce qu'ils ont en caisse. Et on sait que quand on interroge les chefs d'entreprise, ils sont plutôt dans l'idée, ils ont envie d'augmenter leurs salariés, sauf qu'ils disent qu'aujourd'hui, et ils l'ont répété d'ailleurs, et donc ils l'ont rappelé, je sais plus qui l'a rappelé, mais aujourd'hui, si tu donnes 100 un salarié en plus, c'est 300 en plus pour l'entreprise. Il y a tellement de charges, il y a tellement de différences entre le brut et le net, que c'est ça le problème numéro un. Donc quand Mélenchon, il dit il faut augmenter les salaires, tout le monde est d'accord, il faut augmenter les salaires. D'ailleurs, les 7 candidats étaient d'accord pour dire il faut augmenter les salaires. Sauf que comment aujourd'hui on augmente les salaires dans un pays où la croissance, les chiffres de l'INSEE sont tombés ce matin, est en recul, où des entreprises ferment chaque jour et l'activité est quand même assez morose.
Bah oui, c'est pas.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu serais toujours dirigeant, tu pourrais augmenter les salaires ou pas?
Mais pas plus aujourd'hui qu'hier ou demain. Le problème, il est celui qu'Olivier a décrit, c'est le coût des charges en rapport avec le temps de travail, qui est avec le 35 heures par semaine base légale, qui font que le coût est très très cher. Il faut une valeur ajoutée créée par le salarié dans une économie privée, dans une entreprise privée, j'entends, qui est telle que c'est difficile de pouvoir augmenter la masse salariale. Alors Monsieur Mélenchon, il est sympa, mais lui, il a été 38 ans parlementaire, 24 ans député européen, 24 ans sénateur, 86 à 2010, ensuite 9 ans député européen et enfin 5 ans au Parlement français. Lui, il n'a pas créé un emploi. Alors c'est facile d'aller voir les chefs d'entreprise en disant faut augmenter les salaires. Quand on voit Bill Gates aujourd'hui qui alarme, qui est quand même une sommité, Bill Gates qui dit attention avec l'IA, il va falloir sauvegarder des domaines d'emploi parce qu'on va se retrouver avec pas assez d'emplois par rapport à la situation actuelle. Quand on voit les charges françaises qui sont les charges maximales, il y a de quoi avoir peur hein, pour la suite.
Il y a Jacques Maillot, qui est chef d'entreprise, qui a été le pilier des grandes gueules, a toujours dit l'augmentation des salaires, ça dépend du carnet de commandes. Si vous avez un bon carnet de commandes, vous pouvez augmenter les salaires. Si on n'en avait pas.
Le problème de fond dans une entreprise, c'est qu'on ne fait qu'augmenter les salaires. Il y a des salaires qui vont jamais à la baisse, sauf en cas extrême, mais qui n'arrivent pas. Donc vous augmentez les salaires, et il faut que votre chiffre d'affaires augmente. Mais quand vous avez un phénomène récessif ponctuel, effectivement de carnet de commandes ou autre, ou de moindre rentabilité, vous retrouvez le bec dans l'eau.
C'est Florent qui veut intervenir au 32-16, il est artisan, entrepreneur dans le bâtiment. Bonjour Florent.
Ouais, bonjour.
Ça vous a fait sortir de vos gonds hier, Jean-Luc Mélenchon qui monte du doigt les chefs d'entreprise en disant la récession sera à cause de vous si vous n'augmentez pas les salaires.
Bah, complètement. Enfin, d'où il se permet de pouvoir commencer à nous dire ce qu'il faut qu'on fasse dans une entreprise. Surtout que je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, c'est quand même un sacré charlot quand même. Parce que il a jamais travaillé, il sait pas ce que c'est, et je reprends ce qui a été dit à l'instant. T'augmentes tes salariés, qu'on augmente nos salariés, que si on a un carnet de commandes qui est plein. Aujourd'hui, le carnet de commandes, on l'a pas. Ou du moins, on l'a très peu en visibilité, suivant dans certains domaines. Aujourd'hui, le bâtiment, on voit bien que c'est quand même un petit peu le why. On sait pas trop où est-ce qu'on va. Et augmenter les salaires, c'est une chose. Mais ça veut dire qu'augmenter les salaires, ça veut dire derrière, on multiplie par deux pour nous, pour les charges. Parce que les charges, elles sont quand même, on paye, et ça a encore augmenté pendant les vacances, hein, parce qu'au mois d'août, ça y a eu des choses qui ont passé, et on a pris des pourcentages sur les salaires, sur les charges. Et à un moment donné, moi, je veux bien augmenter. J'ai aucun problème à augmenter. La seule chose, c'est que derrière, tu fais un euro, tu multiplies par trois, quoi. Ouais. On fait quoi? Enfin, derrière, les gens sont pas capables, les clients, nos futurs clients ou nos clients sont pas capables de payer trois fois le prix d'un salarié, d'un collaborateur. Donc, à un moment donné, je vois pas comment est-ce que, puis lui, il se permet quoi? Ce serait de notre faute que le pays, il sera en récession. Non, mais déjà, qu'il fasse déjà l'économie, c'est bon, on fait pas.
Il faut déjà rappeler. Il faut rappeler aussi que dans les entreprises au-dessus de 50, qui est déjà une taille importante, il y a l'obligation de ce qu'on appelle une négociation annuelle. Ce qui est d'ailleurs scandaleux, parce que ça met toujours le chef d'entreprise et l'entreprise dos au mur, parce qu'il faut obligatoirement avoir une négociation pour augmenter les salaires. Alors que ça se faisait avant naturellement, dans une bonne entente. C'est fini les chefs d'entreprise qui veulent plus augmenter les salaires pour leur intérêt
personnel. C'est terminal en fait.
Florent, il dit, en plus on n'a pas de visibilité, en particulier dans le secteur du bâtiment. Alors, Sandrine et Bruno.
Moi je suis d'accord avec ce que dit Florent. Il est qui, lui, pour Mélenchon, pour nous dire ce qu'on doit faire? Parce que moi aussi, je suis chef d'entreprise, hein, puisque je suis avocat libéral, et donc j'emploie du monde. Mais on a bien compris qu'hier, Mélenchon, il faisait quoi? Il faisait du spectaculaire. Dire ça devant les chefs d'entreprise, évidemment que ça allait être une bombe. Mais aujourd'hui, en fait, il se trompe juste de coupable. Bien sûr que c'est un vrai sujet. Il met le doigt sur ce vrai sujet-là. On est d'accord? Il pose un vrai diagnostic. Sauf que c'est pas l'affaire des patrons. C'est l'affaire de l'État et du coût du travail. Je veux dire, moi aussi, j'ai envie d'embaucher des gens, mais il faut baisser les cotisations salariales. C'est pas possible. Quand je veux employer un collaborateur libéral ou pas, alors si c'est libéral, c'est pas la même chose. Mais si c'est un salarié, je dois payer fois deux et peut-être même fois trois. Donc au bout d'un moment, on peut pas impacter ça après sur nos clients.
Et Bruno. Après, est-ce qu'il faut augmenter les salaires ou pas?
Bah évidemment, parce qu'en fait, ce que Mélenchon reporte là et c'est juste que ce qu'il entend, c'est-à-dire que lui, Mélenchon, on peut en penser ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est très populaire dans le vrai sens du terme, et il entend des gens lui expliquer qu'en fait les gens n'arrivent pas à la boucle à la fin de mois, oui, que les gens galèrent depuis des mois, que en fait l'impact de la guerre de l'Ukraine, l'impact de la guerre en Iran a fait qu'aujourd'hui tout a augmenté, et aujourd'hui les charges, mais pour les petits patrons aussi. Et là, ce que fait Mélenchon, par contre, là où il était très fort, parce que il est très fin politiquement, il dit ça à une assemblée de patrons, bah petits, oui, et voilà, grands. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rigolent. Mais qu'est-ce que voient les gens comme des gens qui sont questionnés?
Ils voient ça comme du mépris.
Ils voient ça comme du mépris et surtout comme une insulte. En fait, ils se disent, mais regardez, les patrons se foutent de notre gueule quand on leur dit qu'on peine à vivre. C'est ça aussi l'histoire. Après, moi, dans la mécanique de Mélenchon, là où il a raison, c'est qu'en fait, il se dit, t'augmentes les salaires, t'augmentes la conso, donc t'augmentes après, tu relances ton économie, ce qui est vrai. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Français qui gagnent bien ou moins bien leur vie se disent, mais moi, je touche 48 à 47% de mon brut. Et derrière, j'ai pas les services publics qui sont en relation. Oui. Derrière, je peux plus vivre avec ce qu'on me laisse. Alors que si on me laissait 60%, je vivrais mieux et que derrière, peut-être mes services publics seraient pas pires.
Peut-être que le raisonnement de Jean-Luc Mélenchon, il est un peu faussé. C'est-à-dire qu'il raisonne grand groupe. Tu vois, regarde ce qui s'est dit ces dernières semaines au sein d'LFI, tu vois. Évident. Il raisonne grandes entreprises, grands groupes. Il est dans les grands groupes. Il le dit d'ailleurs, hein, où remontent les profits vers les dividendes. Au lieu de remonter vers les dividendes, vous devriez plutôt augmenter vos salaires.
C'est avant tout dans les PME en France. Non,
sauf que, effectivement, aujourd'hui, l'emploi, le tissu principal en France, c'est des TPE et des PME.
Et puis moi, j'ai travaillé pour des grands groupes. Si vous tapez sur les grands groupes, ils vont serrer le kiki au PME en dessous.
On a Benjamin.
Avec les connards d'acheteurs.
On va dans le cher.
J'aurais juste donné un truc. Vous avez qui en face de vous là? Qui parle? Vous parlez, c'est pas Attal et Dorfilippe, c'est Mélenchon. Oui, c'est-à-dire que Mélenchon, c'est un animal politique. Là, ce qu'il a fait, il a réussi ce qu'il voulait, il a eu le droit de rire de la salle. Oui. T'inquiète pas que ça va être
dans les pages.
Oui, mais c'est pour ça que je disais,
on va dans le cher. Ça dit qu'on aille dans le cher.
Ah, c'est la classe, le cher.
On va aller à Augy-sur-Aubois, c'est ça, Benjamin? Bonjour.
Ouais, à côté, bonjour. Ouais, je suis très surpris d'écouter des discours comme ça venant de gens aussi intelligents que vous, quand même.
Allez-y.
Mais à force de taper sur les patrons ou même les groupes, hein, parce que un groupe, faut quand même pas oublier qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, prendre des risques comme on prend, nous les employeurs, pour gagner une fois, deux fois, trois fois moins que nos salariés, quel est l'intérêt pour nous de prendre des risques? Est-ce que vous dites, je vous écoute tout le temps dire là, l'État se gargarise, on vit dans l'opulence, mais est-ce que c'est pas tous les Français où on se prend pour des riches et on n'est plus riches? Est-ce qu'il faut pas peut-être qu'on se remette tous un petit peu plus au boulot, arrêter de pleurer parce que le taux horaire est pas bon? Mais d'accord, le taux horaire n'est pas bon. Tout le monde croit, même moi, j'ai l'impression de pas être payé à ma juste valeur. Mais aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée en une heure de travail pour un salarié? Faut arrêter de dire on gagne pas assez notre vie. Peut-être la question, faut peut-être la retourner dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on rapporte à notre entreprise?
Mais j'entends Benjamin.
Benjamin, j'ai pas compris là.
Mais Benjamin, nous c'est pas ça. Moi, c'est pas ça que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que beaucoup de personnes n'arrivent plus à vivre avec ce qu'ils gagnent. Il est là le sujet.
Mais
après le sujet.
On est d'accord pour le dire.
Oui, est-ce que vous croyez pas que le standard quotidien, il a pas changé depuis quelques années? Moi aussi, j'ai plein de salariés qui me disent on n'y arrive pas à la fin de l'année. Ça n'empêche pas que tous les deux mois, je vois un nouveau téléphone à 1 500 € dans une poche. Ça n'empêche pas qu'ils vont plus en vacances que moi. Ça n'empêche pas qu'ils ont des voitures neuves. Est-ce que vous croyez pas quand même que c'est pas gagner plus d'argent?
Donc vous le problème, c'est qu'on a un problème de richesse globale en France, c'est-à-dire qu'on ne crée pas suffisamment de richesse. Et c'est là où le discours de Mélenchon et même celui de Marine Le Pen est en pleine contradiction. C'est-à-dire qu'à la fois on peut pas. Marine Le Pen, elle dit il faut créer de la richesse, mais en même temps elle veut que on parte à la retraite à 62 ans.
Ah oui, mais c'est les 35 là-bas.
Jean-Luc Mélenchon dit il faut que les salaires augmentent, mais là aussi il faut partir à la retraite à 60 ans. Il faut surtout pas toucher aux 35 heures, aux aides sociales, etc. Donc en fait on est en pleine contradiction. Il va falloir quand même que tous, effectivement, on travaille plus. Alors, je ne parle pas aux gens qui travaillent déjà, mais donc globalement, il y a plus de Français qui travaillent, on le sait, qu'on travaille un peu plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps et qu'on ne peut pas financer 30 ans d'inactivité. Sinon, ça veut dire qu'on est obligé d'augmenter les impôts, les cotisations et que les salaires restent bas.
Mais tu l'as
donc,
dit
tout ça, tout ça, non, mais tout ça est lié. Et c'est vrai quand même que hier, Mélenchon a fait un bon coup, mais tout ça, quand même, quand tu décortiques son discours, on est, il y a des contradictions.
Oui, mais là, moi, j'aime bien t'entendre là, mais tout à l'heure, Emmanuel a dit un truc. Il faut jamais oublier ce qui va nous arriver aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as l'IA qui arrive et qu'aujourd'hui, tu vas des emplois qui vont être détruits.
On n'a pas beaucoup parlé hier, d'ailleurs.
Et tu vas en faire quoi des emplois détruits? C'est-à-dire qu'un mec qui est dessinateur, un mec qui est, même un médecin aujourd'hui, le mec avec l'IA, il pourra être soigné. Tu vas faire quoi? Donc, en fait, il va falloir transformer des emplois. Il faut qu'on refasse des emplois de service.
On est en train de vivre une révolution.
Moi, j'entends jamais. Moi, je voudrais bien que les candidats nous expliquent comment ils vont créer de l'emploi et comment on va pouvoir aujourd'hui reproduire ce qu'on consomme en France. Ça serait déjà pas mal si tu produis ce que tu consommes
en
France.
Mais on ne produit plus parce qu'on a fait une France de consommateurs et pas une France de producteurs. Il y a des dizaines d'années, on s'est dit
Benjamin,
mettre tout sur la consommation et on laisse tomber la production.
Benjamin, vous êtes dans quel secteur d'activité, Benjamin ?
Plutôt dans le secteur du transport, j'ai plusieurs activités, mais vous dites faut recréer des métiers de service, c'est bien de dire ça. Vous avez beaucoup de candidatures, vous ?
C'est vrai, vous avez
raison. Moi, je recrute tout le temps, et d'ailleurs, on passe pour des mauvais employeurs.
Ça sera des robots qui feront les services.
On nous dit qu'on n'est pas capable de garder nos salariés. Mais c'est pas ça. C'est pas qu'on n'est pas capable. C'est que le salarié veut toujours de plus en plus. Moi, je suis issu d'une famille de salariés, hein, de très très pauvres. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec les gens qui sont salariés, les patrons, les très grands patrons. J'ai aucun problème avec ça. Chacun a ce qu'il veut, pas ce qu'il mérite ou ce qu'il. Chacun a ce qu'il veut.
Vous avez combien de salariés, Benjamin ?
Une quarantaine.
Ah ouais, bien, bravo. Ouais. Et vous avez et la rentrée, elle est comment là, le carnet de commandes justement?
Nous, on a du travail, mais quand j'écoute des discours comme le vôtre, moi, si j'ai pu faire ça une fois, je le referai deux fois. Et Monsieur Mélenchon, ce qu'il faut qu'il fasse attention, c'est que des gens comme moi, il y en a beaucoup, on est prêt à les recommencer ailleurs.
Ouais, où est-ce que vous pourriez aller, vous, Benjamin?
N'importe où.
En Europe ou
En Europe ou pas? Moi, j'ai plein d'amis qui sont partis aux États-Unis. Alors, c'est dur, c'est rude, en effet, mais pas pour les gens comme nous.
Pas pour ceux qui veulent bosser, quoi, en fait.
Exactement.
C'est ça.
Exactement.
C'est ce que dit souvent Emmanuel De Villiers, d'ailleurs. Oui.
Non, la difficulté, pour marier un peu les points de vue, et ça, c'est du vécu, c'est qu'en fait, c'est vrai que les salariés, pour certains nombre d'entre eux, ont du mal à joindre les deux bouts, parce que le coût de la vie est dingue. Mais la difficulté, c'est qu'ils se retournent vers leur seule source d'approvisionnement, qui est l'entreprise le chef d'entreprise, qui lui se retrouve qui est impuissant.
Justement,
il comprend cette demande, mais il peut pas y répondre toujours.
Benjamin, je vous remercie d'avoir été avec nous, Benjamin, qui vante la valeur travail. Il faut y aller. Et puis, quand on n'a pas les moyens, eh ben on demande pas une augmentation. Oui. On réduit aussi son travail.
Mais
c'est-il
augmenter les salaires? Sauf que
le problème de fond, c'est ce qui s'est passé en passant des 39 heures aux 35 heures, administration comprise. On a amputé la force productive et la création de richesse française, et maintenant c'est très dur d'aller dans
le sens. J'ai remarqué qu'il n'y a
aucun candidat qui demande la suppression des 35 heures, même les plus à droite.
Mais alors, tu m'avais rappelé avec beaucoup de délicatesse que mon programme, je ne dépasse pas 1%, je pense.
Faut-il augmenter les salaires? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison? C'est impératif, sinon c'est la récession. Eh bien, regardez ça encore partagé. Oui, il faut augmenter les salaires, mais on est à 51,6 et non à 48,4. Cela dit, ça vous fait gagner un deuxième tour quand même. À 51,6 et 48,4. Dans un instant, justement, l'élection présidentielle, le Attal, Philippe, Retailleau, Lisnard, Bertrand, est-ce qu'il faut une primaire à droite pour les départager? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
RC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec Emmanuel De Villiers, Bruno Poncet, Sandrine Pégan. On va parler de ce qui se passe à droite. Le match a plusieurs candidats. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, David Lisnard, Xavier Bertrand. Si on les départageait avec une primaire, qu'est-ce que vous en dites?
On ne fait pas le MEDEF.
Ah, c'est André Citroën, pardon.
Ben oui.
Ah oui, je me suis trompé.
Ça va mieux.
Ah oui.
Ça va,
pardon, je me suis trompé de sujet. Hein. Merci Sandrine Pégan, elle suit.
Là, c'est fou ça quand même.
Désolé.
Il y en a un qui suit.
J'ai sauté une case. Effectivement, c'est le MEDEF. Remarquez, on n'est pas loin. MEDEF qui propose l'entrée d'André Citroën au Panthéon.
Oui, ce qui n'a rien à voir.
Je sais, mais il fallait que je trouve un truc quand même à dire.
C'est intéressant.
Laisse-le rebondir.
André Citroën, en fait, c'est son arrière-petit-fils qui depuis longtemps, son petit-fils, milite pour l'entrée de son grand-père industriel. industriel au Panthéon en disant il a contribué à l'industrie française. La marque est maintenant rentrée dans les mœurs. Il y a eu la deux chevaux et des voitures qui ont incarné la France.
C'est vrai qu'il y a de grandes personnalités au Panthéon. Robert Badinter, récemment, l'avocat. Il y a des hommes politiques, des grands écrivains. Mais il n'y a pas de grands industriels français. Là, ça a échappé totalement au choix présidentiel, parce que c'est le président de la République qui choisit qui rentre au Panthéon. Il n'y a pas non plus de grands sportifs. On pourrait imaginer qu'on mette au Panthéon, puisque c'est la patrie reconnaissante, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, des sportives ou des sportifs. Il y a des écrivains, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer Gustave Eiffel. Pourquoi Gustave Eiffel ne serait pas au Panthéon? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas une vision étriquée.
Alain et Olivier, si on nous demande, on votera pour vous.
On pourrait imaginer effectivement Alain Marchal au Panthéon.
Qui reste en vie le plus longtemps possible.
Et on pourrait même, de notre vivant, rentrer au Panthéon. Ça serait encore plus surprenant.
Vous y êtes déjà, en fait.
Non, mais sérieusement. Est-ce que Citroën, Dieu, déjà, est-ce qu'André Citroën, il faut le faire rentrer au Panthéon, Emmanuel?
Oui, je pense que l'idée est émouvante et impressionnante, parce qu'André Citroën, s'il y a un capitaine d'industrie, c'est bien lui. Créateur génial, qui a su s'entourer des meilleurs ingénieurs. Il a vraiment marqué la France au travers de modèles emblématiques. Tu citais la deux chevaux, évidemment la DS aussi, et tant d'autres. Faut rappeler la croisière jaune, qui a été un événement historique extraordinaire avec les Alftrack et tout ce qu'il a relevé comme défi. Il est d'ailleurs mort très jeune, sans doute par ce travail harassant et toutes les difficultés qu'il a dû surmonter. Non, André Citroën, c'est un très très grand personnage, incontestablement.
Alors c'est amusant parce que c'est une initiative qui est soutenue, lancée donc par le comité de soutien, constitué d'une soixantaine de personnalités, par Henri-Jacques Citroën, son petit-fils, mais aussi par le MEDEF, mais aussi par la CFTC, le syndicat. Maintenant, on attend la réponse du président de la République.
Alors, est-ce une bonne idée ou pas?
Ah ouais, moi je trouve que symboliquement c'est très intéressant, donc je suis vraiment pour, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, c'est vrai qu'au Panthéon, il y a quoi? Il y a des grands noms, hein. Oui. Il y a des écrivains, il y a des résistants, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grands entrepreneurs. Et lui, il est là, il incarne au contraire vraiment tout ce qui est l'industrialisation française, parce que justement, hein, en moment, on est en train de pleurer la désindustrialisation. Que donc du coup, là, je me dis que quelqu'un qui incarne l'inverse, ben il a toute sa place. Et puis il a une vraie histoire française quand même, si je ne me trompe pas, il est quand même fils d'un immigré néerlandais, il a été ingénieur, il est pour l'effort de guerre.
Il a combattu en 14.
Ouais, voilà. Donc il a été patron de façon précoce. Donc oui, moi je trouve qu'il a toute sa place au Panthéon.
Il a rencontré sa femme dans une soirée au casino du Touquet, André Citroën, figure-toi.
Ah oui. Ah ben très bien.
Mais est-ce que ça serait une bonne idée, un grand industriel au Panthéon?
Ah, moi je trouve que dans l'état de la France actuelle, mettre un industriel qui a fait faillite, ça serait parfait. Parce qu'il faut quand même se dire la vérité, hein. Il a fait faillite, il a été racheté par Michelin, sinon sa boîte a coulé définitivement. Donc effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs en France qui ont réussi. Faut qu'on en prenne un qui a foiré et qui à la fin tombe à la renverse. Ah oui, il a été innovant, certainement. C'est pas quand même lui qui a créé la DH, je crois qu'il était déjà plus là. Mais moi je pense qu'à un moment donné, faut un peu se remettre en ligne. Le Panthéon fait rentrer tout et n'importe quoi par moment. Oh, moi je vois, il y a toujours pas Gisèle Halimi dedans. Je trouve ça un petit peu dommage, hein. À un moment donné, il faut peut-être aller quand même chercher des gens qui ont fait des choses, qui ont fait avancer
la société. Halimi.
Bah, elle a fait avancer le droit des femmes, ce qui est pas mal. C'est vrai qu'effectivement,
quand même, avec le droit
de l'avortement, nombre de femmes qu'il y a dans le Panthéon, c'est vrai que vaut peut-être
mieux. Il y a Joséphine Baker qui est rentrée récemment.
Oui, bah, c'est vrai que ça en fait trois.
Il y a Simone Veil.
Oui, parce que la pauvre Madame Curie qui a tout découvert, elle a fait qu'on la fasse rentrer avec son mari. C'est quand même assez exceptionnel. Ça, c'est la France. C'est la France.
Ça a changé maintenant.
Aux hommes. Non, mais ça me fait un peu rêver. Je pense qu'au Panthéon, on peut faire rentrer d'autres personnes que ce monsieur Citroën. C'est peut-être un grand chef d'entreprise. Mais ça
m'étonne pas que tu sois contre les patrons.
Henri Krasuki.
Mais il a créé des usines, il a créé des milliers d'emplois. Tu vas pas dire ça quand même. Henri
Krasuki, tu m'excuses.
Oui, mais au bout de combien d'années?
Si tu regardes le parcours même de ceux qui sont au Panthéon, je suis sûr qu'ils sont pas tous irréprochables.
On est d'accord, c'est pas tous glorieux.
Voilà. Donc, ne serait-ce que parce qu'ils étaient aussi dans une époque ou qui étaient des époques aussi coloniales et autres. Alors il y a
mais
eu
mais
des
écrits. Mais on voit bien qu'on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, la question se poserait pas.
Non.
On ferait rentrer des gens qui ont créé des choses, etc.
Henri Ford, disons au Panthéon.
Mais en France, on a une détestation et Bruno vient finalement de l'incarner un peu, une détestation de tout ce qui représente, les entrepreneurs, les ceux qui créent, etc. Ceux qui se sont enrichis, ça, on supporte pas.
On a l'impression que c'est même moins noble.
On veut des avocats. veut des gens qui défendent les minorités.
On veut des politiques.
Il a été deuxième constructeur automobile mondial derrière Ford à une époque. C'était quand même.
Moi, ce que je vois juste, c'est que pendant moi, parce que j'ai fait des 20 heures de bus, donc j'ai eu le temps de voir des vidéos avec le Wi-Fi, et j'ai vu à un moment donné l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Ça me paraît un peu autre chose qu'André Citroën avec sa faillite à 50 piges, tu vois. Quand je vois l'entrée de Jean Moulin, je me dis quand même, là, quand tu as marqué au grand.
Dans ce cas-là, on ne fait pas rentrer Badinter non plus, on ne fait pas rentrer Baker. Je veux dire, forcément, si tu mets Jean Moulin, le curseur est tellement haut, les autres,
tu pourrais être sportif.
Sportif. Tu ne fais pas Gisèle Halimi par rapport
à Platini au Panthéon.
Mais Jean, allez-y, t'as qu'à mettre Jean, allez-y.
Mais moi, ça ne me choquerait pas.
T'as qu'à mettre tous les losers.
Mais moi, ça ne me choquerait pas.
Toi, t'es un mec qui adore les losers, c'est ton choix.
Moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des grands sportifs.
Oui, Jean, allez-y, laisse tomber.
Non, Alain Prost, quand il sera mort.
Ouais, non, mais c'est sûr, il faut faire rentrer n'importe qui dans
le Panthéon. Zidane, on mettra Zidane au Panthéon, ça sera très bien.
De manière très posée.
Platoche,
tu ne peux pas rabaisser.
Ouais, mais juste Fontaine,
l'œuvre incontestée d'André Citroën, qui est vraiment un créateur français.
Bien sûr.
Magnifique.
Il a fait rayonner la France industriellement.
Mais c'est la détestation du chef d'entreprise.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, il faut toujours avoir votre avis à vous, parce que vous êtes la majorité, vous avez raison. Moi, je suis qu'une pauvre minorité ici.
Non, mais bon, en attendant,
on en reparlera l'année prochaine au mois de mai quand
tu as été salarié, tu n'as pas créé de société. Et donc, tu vois, à un moment donné, quand tu arrives aussi, malheureusement, à devoir déposer le bilan, ce n'est pas forcément quelque chose que tu veux. Et là, s'il a fait faillite, c'était aussi au bout d'un certain nombre d'années.
Pour être quelqu'un. Excuse-moi, je sais pas ton parcours à toi, mais moi, le mien, je pense que ça me suffira. Moi, dans ma vie, avoir ce parcours-là, ça me suffit amplement.
Non, mais ça serait bien, qu'il y ait Jean Jaurès et André Citroën qui soient Panthéon. Jaurès y est, toi, on aurait les deux pendant. Toi, tu serais trop content, il y a Jaurès, et puis Emmanuel Duvilliers, il y aurait Citroën, et ça réconcilie la France.
Non, moi, je préfère qu'il y ait d'autres personnes dans le Panthéon. Moi, je trouve qu'il y a des gens beaucoup plus intéressants, maître. Moi, je trouve qu'un mec qui a travaillé 45 ans dans l'usine, qui en est mort à la fin, ou dans une mine, qui est mort parce qu'il avait de la suie dans les poumons, c'est un mec qui mériterait d'être là-dedans quand t'es cherché le charbon pour faire rouler ses bagnoles de merde.
Donc, le héros aussi, qui a sauvé mamie.
Pour moi, le tiens, regarde.
Moi,
je vous imagine bien, vous, à vos terrasses, applaudir les infirmiers qui allaient travailler pendant le Covid. Elle fait les rentrer dans le Panthéon, les infirmiers.
Elle faisait leur boulot, c'était formidable. Elle faisait leur boulot.
Ouais, mais Citroën, il faisait pas son boulot, il a créé des bagnoles de merde.
La France n'a pas attendu ta remarque, puisque sous l'Arc de Triomphe, c'est le soldat inconnu.
Ouais, ça reste un soldat. C'est vrai que ça, c'est votre truc, des soldats, vous. Quand t'as jamais gagné une guerre de ta vie, tu peux être soldat, c'est sûr. Moi, ce que je vois surtout, c'est que là, c'est marqué les grands hommes, la patrie reconnaissante. Qui peut être reconnaissant, mec, qui a créé des bagnoles?
Non, mais attends, il a créé des usines, il a créé des milliers d'emplois, il a fait rayonner la France. Oui, tu peux pas dire qu'aujourd'hui,
tu dis n'importe quoi, Bruno.
Non, mais sans Michelin.
Là, t'es de mauvaise foi, c'est des arguments, mais sans
Michelin. Non, mais les mecs sont trouvés sur le carreau grâce à lui, mais c'est vrai que voilà.
Sur le carreau.
Mais pourquoi en fait on mettrait pas d'autres? Tiens, Bernard Tapie là-dedans, tu vois, quelqu'un qui a vraiment redressé l'économie française. Hop là.
Allez, c'était pas un créateur d'entreprise.
On peut suggérer son
nom. Il en a détruit quelques-uns, surtout des entreprises.
C'est un repreneur, mais c'était pas quelqu'un.
Oui, un dépeceur.
Donc ce qu'on peut regretter dans les cérémonies du Panthéon, de manière plus générale.
Du Panthéon, c'est ça.
Oui, non, c'est tout ce côté emprunté. Avec les politiques qui viennent récupérer
Emmanuel Macron, il aime bien ça.
Outre le prix et toute la pompe, mais qui est souvent décalée compte tenu des gens qu'on voit dans le cadre de ces cérémonies.
Oui, et puis surtout, on a accéléré le nombre d'entrées au Panthéon. Il n'y en avait pas autant avant. Hein. Emmanuel Macron a accéléré le rythme. Maintenant, c'est quasiment...
J'espère qu'il mettra Thomas Joly au Panthéon. Parce qu'avec la cérémonie qu'il a faite pour les JO, à l'ouverture des JO, je veux dire, ça serait classe. Quand même.
Et tu vois, pour ça, les Américains...
Ça aurait un sens.
Les Américains sont assez forts parce que ils ont créé des Hall of Fame.
Ouais, et puis dans tous les corps de métier.
Et dans tous les corps de métier.
Oui,
mais tu vois, il y a les Hall of Fame du basket, les Hall of Fame du baseball, les Hall of Fame du rock, les Hall of Fame de l'industrie. Enfin, voilà. De façon à ce qu'il puisse y avoir une reconnaissance à chaque fois. Moi, je serais... Alors, peut-être pas forcément au Panthéon, mais on pourrait créer, à côté de ça, si tu veux, je sais pas, une espèce de grande fondation de l'industrie où on mettrait à ce moment-là les gens qui ont œuvré pour l'industrie. Il y a une reconnaissance. Cela dit, je recommande pour tous ceux qui veulent dans le quartier, il y a quelques encablures d'ici, le bistrot d'André, parce qu'on est à côté du quai historique, qui est le quai André Citroën, où étaient les usines Citroën. Il y a un bistrot d'André avec plein de vieux souvenirs de l'usine André Citroën, et en plus, on y déjeune. Très bien. Faire entrer André Citroën au Panthéon pour ou contre? Qu'est-ce que vous en dites? Pour à 55%.
Il a servi la France.
Dans un instant, suite des GG. Et là, on pourra reparler de la primaire à droite. Est-ce qu'il faut une primaire pour départager les candidats du centre et de la droite? À tout de suite.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.